101.
C'est vendredi, alors ça part bien, surtout avec la météo depuis ce matin, pour un week-end qui va ressembler à un genre de week-end de Pâques. Ça veut dire quoi? Les érablières vont couler à flot, on va avoir du beau temps et ça va être somme toute assez beau. Bon, c'est sûr qu'il va y avoir quelques passages de pluie ou de la pluie verglaçante que je dois vous signaler pour samedi-dimanche. Mais à part ça, honnêtement, je vois juste des températures semi-printanières qui se pointent le bout du nez. Salut, moi c'est Pascal et vous m'entendez habituellement avec Jeff Fortin qui lui est en congé pour aujourd'hui. Il va revenir lundi. Il prend ça juste relax en pleine relâche. Je pense que son plaisir là, fondamental dans les deux derniers jours de congé, c'est pas avoir de cadran. T'en penses quoi, toi, Mathias?
Je pense que oui aussi. Quand tu fais le show du matin et que tu te ramasses à te lever à 3h45, 4h, pouvoir dormir l'heure et demie, 2h, 3, 4 heures de plus, ça fait du bien, en mot te dit.
Les mauvaises langues diront, oui, mais avec son système, là, c'est imbriqué, il va se réveiller quand même. Oui, mais sans le cadran. C'est vraiment le cadran qui est le démon là-dedans. Puis on lui en souhaite une bonne encore une fois aujourd'hui. Comme je vous dis, il revient lundi. Gros show aujourd'hui. Assurément, on va jaser de toutes les nouvelles qui font encore une fois en sorte que cette émission-là va y aller sur les chapeaux de roue. Le budget Girard qui va être déposé le 18 mars. On va en jaser avec un économiste. Également, Frédéric Bérard, qui est avocat, va venir dans l'émission parce qu'on a une couple de sujets à jaser avec lui. J'en jasais justement avec Max au niveau des Burger King qui va amener l'intelligence artificielle directement dans ses cuisines sur le plancher pour les employés. Mais on va se mettre à espionner à peu près tout ce qu'il va se dire. Est-ce qu'il y a des enjeux légaux là-dedans? Même chose pour les lunettes d'intelligence artificielle qui ont peut-être été appréciées par ceux qui ont le plaisir de la chair et qui ont eu envie de faire des petites vidéos amateurs, mais qui n'avaient pas nécessairement envie que ça tombe entre les mains de quelqu'un d'autre. Puis finalement, on apprend que pour l'entreprise, c'est des employés qui ont pu...
certains fournisseurs.
Se régaler.
Oui, encore une fois, ça dépend c'est quoi les vidéos visionnées. Hein,
écoute, moi je pense que c'est plus selon les goûts, Mathias, de ceux qui visionnaient. Mais tu sais, on rit, sauf que c'est un petit peu la chose la plus épeurante qui peut t'arriver quand tu penses que t'es dans le secret des dieux. Sinon, il y aura Éric Ouellette, c'est sûr. Le vendredi, on se garde toujours quelques minutes pour parler avec le professeur titulaire au département d'études de la défense au Collège des Forces armées canadiennes. Parce que Donald Trump a dit « capitulation ou rien ». Dans le dossier avec l'Iran, il écarte toute négociation. Alex Laramie va venir parler, oui, des échanges dans le Canadien que vous aimez tant et que vous avez donc hâte d'écouter ce soir. Mais on commence toujours l'émission avec Farnell Morissette et Lambert Drainville qui sont bien en siège. D'abord et avant tout, au niveau de la nouvelle et au niveau des réseaux routiers, Mathias, y a-t-il quelque chose à signaler?
Oui, juste commencer sur les routes là, parce qu'il y a quelques ralentissements qui commencent. Ça commence toujours plus tôt le vendredi, surtout en semaine de relâche. Capitale en direction S de ralentissement. C'est entre Pierre-Bertrand et boulevard Neuvière. Présentement, Laurentienne en direction sud, un peu d'attente en arrivant sur Capitale. Capitale à hauteur de Laurentienne en direction ouest, également c'est au rouge. Et du côté de Lévis, on parle de la 20 en direction ouest, ça se passe entre avenue Taniata et chemin des Îles. Pour toute information, 418-971-1021, ça se passe par texto.
Toujours, c'est la façon de communiquer avec nous, peu importe le sujet, peu importe le collaborateur, vous êtes bienvenus, on aime ça. Matt et moi, on vous lit. Si on vous répond pas dans l'immédiat, c'est pas parce qu'on vous considère pas du tout, c'est parce que ça roule en studio. Sinon, il y a Twitch. Ça, c'est le fun. On a les caméras. Farnell, tu peux dire coucou. Hein? Et vous allez le voir dans vos salons, peut-être, avec la relâche ou encore au travail. Donc, twitch.tv/blvdfm.
Côté news, maintenant, un couple de Lévis a été arrêté par les autorités pour négligence criminelle après que son enfant nouveau-né a été retrouvé dans un état critique. C'est une histoire quand même triste qu'on nous rapportait aujourd'hui du côté de Lévis, justement. C'est la SPVL qui avait été alertée le 1er janvier dernier. En fait, 1er janvier 2025, en raison d'un citoyen qui était inquiet de l'état d'un nourrisson. Par la suite, les policiers ont procédé à une enquête, ont vu justement qu'il l'état de l'enfant. Il y avait négligence dans le dossier, donc les deux parents qui devront comparaître le 9 avril prochain pour différents chefs d'accusation, notamment d'omission de fournir les choses nécessaires à l'existence de l'enfant, de négligence criminelle causant des lésions corporelles à l'enfant et d'entrave à des agents de la paix. T'en as parlé plus tôt, Pascal. Éric Girard, le ministre des Finances du Québec, a annoncé que le budget sera finalement déposé le 18 mars prochain. Donc, le budget pour l'année 2026-2027. Donc, le budget qui va être déposé avant que le nouveau chef de la CAQ ait par le fait même, nouveau premier ministre soit choisi entre Bernard Drainville et Christine Fréchette. On dit de ce côté-là que c'est une volonté commune des deux aspirants à la chefferie d'assurer la stabilité du gouvernement.
Et pour ta dernière nouvelle, je pense que c'est celle de la journée. Je pense que c'est celle qui occupe une grande place dans les débats publics en ce moment et qui en a chauffé au moins un des deux qui va s'asseoir avec nous dans les prochains instants.
Oui, le jugement de la Cour suprême concernant les demandeurs d'asile qui avaient accès, en fait, aux services de garderie à contribution réduite. Donc, on parle d'un coup bas pour les différentes familles pour avoir accès aux garderies, programme public au Québec. Eh bien, la Cour suprême dit que les demandeurs d'asile auront droit à partir de maintenant. On en jase justement à l'instant avec nos deux invités.
Oui, parce que Québec a perdu sa cause devant la Cour suprême et il y en a un qui est chauffé, c'est Farnell Morissette. Salut!
Salut, comment
en
ça va?
Forme? En forme, sinon...
Moi, ça va bien, mais okay. Je suis insatisfait, profondément insatisfait de la réaction de la classe politique à cette décision jusqu'à date. Ça fait seulement quelques heures, là, mais attendons de voir comment les autres vont se placer.
Alors, Farnell va bien, mais Farnell avec toge, il y a peut-être un autre air
d'aller aujourd'hui. Ah, ben ça, à New York, on porte pas de toge. Alors, Farnell en veston cravate, il est pas content.
Et Lambert, avec la moustache et la casquette, il est-tu de bonne humeur, lui, aujourd'hui?
Oui, toujours de bonne humeur, toujours un plaisir de discuter avec Farnell Morissette. Bien hâte de voir où est-ce qu'on va se rejoindre et où est-ce qu'on ne se rejoindra pas, surtout sur ce sujet-là, qui est quand même un sujet important qui a fait couler beaucoup d'encre dans les dernières semaines et qui va continuer de faire couler beaucoup d'encre pour les années à venir. Fait que je pense que c'est important qu'on ait une discussion là-dessus.
Oui, puis en plus, ce qu'on aime de toi, Lambert, c'est Lambert Drainville, c'est un analyste politique maintenant, mais il a été en arrière quand même et dans les corridors au niveau de la politique pendant quelques années. Puis comme on a dit, Farnell, t'as été du côté du droit. Qu'est-ce qui vous oppose, les gars, d'abord dans ce qu'on a su au niveau de la Cour suprême aujourd'hui, Farnell?
D'abord, il faut dire, la Cour suprême, la décision est sortie il y a quelques heures, c'est une décision qui fait 224 pages. Alors, je ne l'ai pas toute lue, je prétends pas être allé dans tous les grands détails, mais je veux dire, j'ai lu le résumé officiel, j'ai lu ce qu'on appelle le head note, c'est-à-dire l'espèce de résumé en début de la décision. Si on veut comprendre la décision rapidement, la Cour suprême vient essentiellement confirmer la position de la Cour d'appel du Québec, comme de quoi la décision ministérielle d'exclure les demandeurs d'asile avec un permis de travail du droit d'envoyer leurs enfants dans des garderies subventionnées était discriminatoire selon le sexe. C'est-à-dire que ça faisait de la discrimination entre les hommes et les femmes qui n'était pas adéquat. Mais la Cour suprême est allée encore plus loin que la Cour d'appel en disant que c'est pas seulement les demandeurs d'asile qui ont un permis de travail, c'est l'ensemble des demandeurs d'asile qui subissent une discrimination basée sur le sexe, donc une discrimination entre les hommes et les femmes, en les empêchant d'envoyer leurs enfants dans les garderies subventionnées, à même essayant que n'importe qui d'autre qui a un droit de résider sur le territoire québécois. Ce qui me dérange un peu de la réaction présente de la classe politique, encore une fois, c'est pas toute la classe politique, là, c'est pas tout le monde qui a réagi encore, mais des réactions qu'on voit en premier, surtout du côté du gouvernement et des aspirants premiers ministres, c'est de dire « ça n'a pas de bon sens, on va utiliser la clause dérogatoire contre ça ». C'est une hypocrisie dénudée, je trouve, que ça vienne du même gouvernement qui est en train de marteler que l'égalité homme-femme est non négociable, que l'égalité homme-femme doit primer sur, par exemple, les droits de conscience, les droits religieux, de se virer de bord, puis après ça dire « on va utiliser la clause dérogatoire pour invalider une décision de la Cour suprême qui veut mettre de l'avant l'égalité homme-femme quand ça vient le cas des demandeurs d'asile. Puis l'autre chose qui me fâche, c'est que j'ai l'impression de voir un accident de train au ralenti parce que qu'est-ce que ça va faire si on impose la clause dérogatoire pour justement continuer à exclure les demandeurs d'asile de ce genre de service-là? Bien, de un, la rhétorique qui dit on met les Québécois avant les autres, c'est en train de dire OK, bien, les demandeurs d'asile, vous n'êtes pas Québécois. On veut faire une intégration, mais non, vous autres, vous n'êtes pas des nôtres. Comment est-ce que tu es supposé inviter quelqu'un à devenir Québécois quand, pour les premières années, deux premières années, pendant que la personne vient, demandeur d'asile, on lui dit « t'es pas Québécois ». Et puis après ça, comment est-ce que tu es supposé faire une intégration culturelle quand, pour ces deux premières années-là, ces enfants n'auront pas accès à des garderies où ils vont apprendre le français, où ils vont apprendre les valeurs québécoises, où ils vont interagir avec d'autres enfants québécois? C'est une recette pour de la ghettoisation et pour un échec d'intégration sociale. Puis on voit ailleurs dans le monde, c'est quoi l'effet après une génération, après deux générations de ce genre de choses-là. Il suffit de regarder en France.
J'allais dire sûrement que tu nous amènes en France. Ouais. Puis il y en a beaucoup qui le déplorent. Puis ce que tu dis, c'est les petites années, finalement, de ces enfants-là où c'est des cerveaux éponges, ouais, où ils pourraient s'intégrer et qui amènent peut-être la femme, si on y va de façon stéréotypée, à être aussi à la maison. Ouais. Je vois que Lambert, il saute. Honnêtement, s'il pouvait devenir danseur de breakdance, il pourrait en ce moment, tellement il a hâte de prendre la parole. Lambert?
Ben moi, je vais commencer par dire que je comprends l'argument de plusieurs de dire, ben écoutez, le sentiment en fait des Québécois qui disent, si je vis ici depuis longtemps, j'ai payé des impôts depuis longtemps et je devrais avoir le droit d'envoyer mes enfants dans ce genre de programme-là avec des en CPE. Au fond, je comprends ce sentiment-là que plusieurs ressentent et je, tu sais, dans une certaine mesure, je ne le trouve pas du tout dénué de sens. Le problème, c'est que si Farnell parlait d'une contradiction au niveau de l'égalité homme-femme, moi, la contradiction, je la vois également au niveau politique, là. T'sais, je trouve que le gouvernement se contredit dans sa façon d'agir et frappe pas sur la bonne cible. Puis rappelons-nous que les demandeurs d'asile, là, par définition, ce sont des gens qui fuient la persécution. Je pense que c'est important de rappeler ça. Et le gouvernement n'est pas super cohérent dans son argumentaire. Il dit, au fond, que les demandeurs d'asile prennent la place de familles québécoises. Encore une fois, comme Farnell a dit, c'est d'opposer les demandeurs d'asile à Québécois, mais en parallèle, accepte les enfants de travailleurs étrangers temporaires qui, eux, viennent ici au Québec pour une durée prédéterminée et quitteront par la suite à la fin de leur contrat de travail. Alors, de venir dire, ben, on n'acceptera plus les enfants de demandeurs d'asile, mais on va accepter les enfants de travailleurs étrangers temporaires. C'est très contradictoire, considérant que les demandeurs d'asile, dans une certaine mesure, ont beaucoup plus de chances de devenir par la suite des gens qui vont s'installer ici, obtenir leur résidence permanente et devenir, selon ce que semble être la définition du gouvernement, des Québécois versus les travailleurs étrangers temporaires qui vont s'en aller. Alors, si l'enjeu, c'est de prioriser les enfants québécois au profit des gens qui sont arrivé ici, mais là, on assiste un petit peu à un deux poids, deux mesures avec ces deux catégories d'immigration-là. L'autre chose, c'est de mettre la faute sur les enfants de demandeurs d'asile qui sont dans le réseau des CPE. On parle de 7 000 places sur un réseau de 180 000 places. C'est moins de 4 % du total de places. Je ne pense pas qu'on peut mettre la faute du manque de places et des 30 000 personnes qui attendent en file sur moins de 4 % des places. Pour moi, c'est faire porter le fardeau d'un problème d'accès à une infime partie des gens dans ce réseau-là. Mais encore une fois, tout revient à être conséquent. Si tu veux prioriser les gens qui sont déjà ici, fais-le, mais arrête de faire porter le blâme à des gens qui, par définition, sont des gens qui, comme je disais, fuyaient la persécution. Alors, la vraie raison, devant toutes ces contradictions-là, moi, j'en viens à la conclusion que la vraie raison de ces démarches-là, elle est d'abord et avant tout politique. C'est de dire, bien écoutez, on a accueilli notre part disproportionnée de demandeurs d'asile par rapport à notre poids démographique dans les dernières années. Et donc, à travers ces différentes mesures-là où on coupe le panier de services pour les demandeurs d'asile, bien on vient dire, on veut être moins attrayant auprès de ces gens-là, on en veut moins, on veut que le gouvernement fédéral soit en mesure d'abord de mieux gérer ses frontières, mais aussi de les disperser plus équitablement à travers le Canada. Mais si cet objectif-là, il est politique, eh bien pour moi, la solution, elle est d'abord et avant tout politique. Arrête de faire porter le fardeau à ces gens-là qui, dans une grande proportion, fuient la persécution. Et si ce n'est pas le cas, devront s'en retourner dans leur pays. Et assis-toi à la table avec le gouvernement fédéral. Ils ont l'air d'avoir pris conscience d'avoir fait rentrer trop de gens au niveau de l'immigration dans les dernières années, puisqu'ils reculent sur pratiquement toutes les catégories d'immigration. Et ça donne des résultats, parce que si oui, on accueille toujours plus que notre poids démographique au niveau des demandeurs d'asile, ça a quand même diminué beaucoup dans les dernières années. On était déjà au-dessus de 50 %. Là, on est rendu qu'on en accueille 33 %, alors qu'on représente 21 % du pays.
Lambert.
On va dans le bon sens, tu comprends-tu? On s'en va dans le bon sens. Alors, je ne pense pas là, que de venir taper sur le clou de gens vulnérables, c'est la solution, alors que la diplomatie puis la négociation politique avec le gouvernement à Ottawa semble quand même donner des résultats dans les dernières années.
Bon, Lambert, là-dedans, il y a énormément de choses. C'est d'abord, au 88-971-1021, moi, je vais voir, les textos commencent à entrer, t'as plein de choses là-dedans. Ça joue, c'est sensible, hein? Ça joue autant sur la sécurité, la politique, la discrimination pour d'autres. On a clairement un dédale administratif aussi là-dedans. Puis il y a plein de craques, parce qu'il y a la craque du... Ça prend combien de temps quand un réfugié réfugié, un demandeur d'asile arrive ici pour avoir l'enquête nécessaire pour dire oui, OK, bon, toi, on t'accepte selon cette étiquette-là.
La loi fédérale est supposée le garantir rapidement. En pratique, ça prend souvent un an et demi, deux
exact.
Ans. Je suis totalement d'accord avec Lambert qu'il y a une part importante de responsabilité du gouvernement fédéral là-dessus. Puis je pense qu'il ne faut pas lire comme si c'était entièrement un problème du gouvernement provincial.
C'est une craque qui est importante, ouais. qu'on doit nommer, en fait, dans ce débat-là. Puis on pourrait même prendre une heure complète là-dessus. Le hic aussi, c'est que ça oppose effectivement deux catégories. Finalement, c'est laquelle la bonne, laquelle on doit mettre plus d'énergie, laquelle à qui on doit offrir ce privilège, entre parenthèses-là, ici au Québec, pour les enfants, l'intégration et tout ça. C'est pas un faux débat. Il n'y a pas une portion politique là-dedans, Lambert. Excuse-moi, Farnell, comme Lambert l'indique.
Oui, là-dessus, je pense que je rejoins Lambert. Oui, c'est une décision qui est largement politique. Je pense que Lambert l'illustre bien. C'est un problème qui est largement déjà en train de se régler. En 2022, 64 % des demandeurs d'asile venaient au Québec. Maintenant, c'est 33 et tout indique que ça va continuer probablement à diminuer à mesure que, justement, on n'est plus sous le gouvernement Trudeau, on est sous le gouvernement Carney. Il a beaucoup changé ses orientations là-dessus. Mais il ne faut pas s'imaginer que ces choses-là change rapidement. Ça prend du temps, puis il faut laisser autant le temps de faire son travail. J'ai comme l'impression que c'est une stratégie politique qui vise justement les gens qui... Et je les comprends, moi aussi, d'être fâchés. Ils sont fâchés parce qu'ils ont l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Ils sont fâchés parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir été écoutés dans le passé. Mais la solution à ça, c'est de régler les problèmes qui rendent que les gens ne se sentent pas écoutés, pas de taper sur la cible facile des gens qui, de toute façon, ne peuvent même pas voter. Alors, c'est gratuit. C'est politiquement gratuit de taper dessus. Et je pense que ça mène... À construire une culture politique que peut-être qu'on ne veut pas vraiment, que peut-être qu'on s'imagine dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce que c'est ça qu'on veut être?
Pourquoi, Farnell? C'est quoi les impacts que ça pourrait avoir auprès des citoyens, des citoyennes? Ceux que tu vois, là, si on veut vulgariser ça, là, c'est quoi les impacts?
Ben imagine, OK, on va être... Mettons que cette décision-là se prend, puis après ça, on décide, notre classe politique prend la décision. Puis là, je dis la classe politique parce que c'est une politique qui a été adoptée sous le gouvernement Couillard. Faut pas tout lancer dans le camp de la CAQ non plus. On prend la décision politique que non, les demandeurs d'asile sont une sous-catégorie. Sont une catégorie qui n'a pas les mêmes droits que les autres Québécois parce que dans le fond, on dit qu'ils ne sont pas Québécois. Ben les enfants de cette génération-là, ceux qui se font dire quand ils ont 3, 4 ans, non, toi, t'as pas le droit d'aller à la garderie avec les autres parce que toi, t'es pas vraiment comme eux. Toi, t'es pas un d'entre eux. Ils vont grandir. Comment ils vont se sentir, tu penses? Je veux dire, leurs parents vont les avoir mis dans des espèces de centres, on sait pas trop où. Ils vont s'être débrouillés. Ils vont avoir été dans des, comme on disait, dans des petits ghettos qui vont éventuellement se ghettoiser. Dans 15 ans, dans 20 ans, ça va faire toute une classe de personnes qui sont au Québec, qui ont toujours été au Québec, qui ont probablement la citoyenneté canadienne, qui sont citoyens, mais qui ne se sentent pas Québécois parce que, dès leur tout début de leur vie, ils se sont fait dire, toi, t'es pas vraiment un des nôtres. T'as pas vraiment droit à ce que les autres ont droit, même si tu payes des taxes. Ouais, mais non, t'es pas vraiment un Québécois. On veut pas traiter les nôtres comme on te traite toi. Mm-hmm. Ben ça va faire quoi comme classe, ça va faire quoi comme groupe de personnes?
Ça, c'est ça que tu vois au niveau des impacts.
C'est là qu'on s'en va là.
Puis Lambert, toi, au niveau politique, où est-ce que ça s'arrête? Pourquoi faut faire des choix des fois, dans ce genre de situation épineuse là?
Ben moi, comme je disais, j'ai commencé en disant que je comprends le sentiment de dire ben si je suis ici depuis plus longtemps et je paye des impôts depuis plus longtemps, j'aimerais ça avoir priorité sur une personne qui vient d'arriver. Mais à un moment donné, c'est une question d'être conséquent. Tu sais, puis Farnell n'aimera peut-être pas ce que je vais dire, mais si c'est ça la logique derrière, eh bien, mettez en place des critères qui s'appliquent à toutes les catégories de personnes qui viennent au pays ou qui reviennent au pays. Tu sais, si tu es une personne qui... par exemple, tu es un Québécois, tu as grandi ici, mais tu es parti travailler à l'étranger. Mets des restrictions sur depuis combien de temps tu es au Québec, depuis combien de temps tu payes des impôts et quel sera ton statut à l'avenir. Comme je le disais tantôt, les travailleurs étrangers temporaires sont destinés à éventuellement quitter dans une large mesure le Québec. Pourquoi eux, ils ont droit et ceux qui... sont les plus marginalisés, les plus poqués et qui vont, dans une grande proportion, je pense que c'est 50-60 % obtenir la résidence permanente et grandir comme Québécois. Pourquoi eux, ils n'ont pas droit? Alors, tu sais, je ne suis pas là pour prendre parti, mais si tu es pour être conséquent et ton argument, c'est de dire ben on va prioriser ceux qui paient les impôts et les taxes depuis longtemps ici et qui vont rester ici, ben que ce soit ça, mets ces critères-là en place pour toutes les catégories d'immigration confondues, et ça s'appliquera aussi, comme je le disais, à un Québécois qui a grandi à Montréal, mais qui est parti travailler en Espagne pendant 15 ans Et bien, si ce gars-là décide de revenir, bien, les critères seront les mêmes pour tout le monde. Puis écoute, ça fait 15 ans que tu ne payes pas de taxes et d'impôts ici. Tu retournes en bas de la file avec toutes les autres. T'sais. Fait que c'est une question aussi d'être conséquent. À ce titre-là, si le gouvernement veut être conséquent, et c'est ça leur vision, bien, qu'ils utilisent la clause dérogatoire, mais qu'ils s'assurent de traiter à tout le moins toutes les formes d'immigration et tous les gens qui rentrent ici de la même façon.
Farnell?
Ben, moi, je m'inquiète beaucoup à l'idée de créer des classes sociales, des classes de citoyens différents en fonction de combien de temps tu as été ici, combien d'impôts tu as payé. Je suis d'accord, par exemple, qu'au moins, ce serait conséquent. Au moins, on ne serait pas dans une espèce d'hypocrisie de parler de deux bords de la bouche en fonction de qu'est-ce qui est plus populaire avec la personne qui est donc bien fâchée après Justin Trudeau ou même des années après qu'il soit parti. T'sais. Cette espèce de hiérarchisation-là des classes sociales, cette formalisation-là de classes sociales québécoises, qui est plus québécois qu'un autre, qui a plus droit à de participer à notre social-démocratie qu'un autre, je crois que c'est profondément contraire aux valeurs québécoises. Ça m'inquiète énormément. T'sais, c'est le genre de logique qui vient après ça à dire, ben moi, écoute, moi, je suis plus riche que quelqu'un d'autre. Si je paye plus d'impôts, est-ce que j'ai le droit d'avoir une place prioritaire en garderie? Je ne pense pas que c'est ça la société québécoise qu'on veut.
T'as l'impression que ça s'en va là avec et ce genre de porte ouverte-là et de décision-là.
On va là, puis ça, c'est vraiment mauvais pour notre cohésion sociale à long terme. Ça mène à une société qui est beaucoup plus faible que ce qu'on
absolument. Puis tu sais, au final, là, je veux dire, l'enjeu, le débat sur les seuils d'immigration puis la quantité de gens qu'on laisse rentrer, je pense que ce qui est bien, contrairement à d'autres endroits dans le monde, c'est que ce débat-là, on l'a présentement. Puis je pense que tout le monde, autant même si, même au fédéral, ils sont visiblement allumé leur lumière à ce niveau-là, tout le monde est prêt à s'asseoir puis à avoir cette discussion-là. Maintenant, concentrons-nous sur ça, sur les rôles de tous et chacun et la gestion des frontières. Et faisons un bon travail et assurons-nous, comme Farnell disait, de pouvoir émettre les permis et les statuts de résidence permanente dans un délai qui a du bon sens.
D'ajouter une crédibilité.
Ça, là, à place de jeter la palme à des gens qui cherchent juste à trouver un meilleur avenir.
C'est là où on entend qu'il y a un gros côté politique à tout ça, au lieu d'aller chercher une crédibilité dans la façon dont on fait l'administration du dossier. Écoutez, les gars, les commentaires vont dans tous les sens. Là. On parle d'un commentaire comme étant, ça ouvre des portes ou ça met la table pour du trumpiste québécois. Quelqu'un d'autre qui dit, je suis quand même surpris qu'on jase de tout ça parce que c'est une situation dont on parle beaucoup dans plein de classes politiques en ce moment. Hein. Entre autres, faut le nommer, ton père, Lambert Drainville, qui est plus dans une politique qui est autre que ce que tu nommes. Quelqu'un dit qu'il faudrait arrêter de parler des gens qui migrent. Ça peut nuire à notre société. Ça cautionne des intolérants, des racistes. Quelqu'un d'autre qui, quand je dis qu'on va à bien les endroits...
Je suis sûr que ça suscite toutes sortes de commentaires. Oui.
On nous dit par Twitch, en passant, venez avec nous. Il y a des caméras twitch.tv/blvd/fm. Quelqu'un qui dit, je trouve que cette situation-là est simplement une conséquence de l'immigration massive, moins bien gérée. On le traite comme un problème seul à résoudre. Mais si on avait assez de services en CPE pour tous parce qu'on avait une immigration normale, on n'en parlerait pas. Et ça, c'est l'avis d'un auditeur. Les gars, c'est sûr qu'on va en rejaser de ce sujet-là. Mmh. On est juste au balbutiement de ce qui vient d'être sorti, comme quoi Québec a perdu sa cause devant la Cour suprême. Les places en garderie subventionnées pour les demandeurs d'asile, c'est non.
Le gouvernement du Québec a perdu sa cause. Je pense que c'est important de le dire parce que l'ensemble des Québécois sont très divisés sur cette question-là.
On va prendre les minutes qui nous restent, les gars, pour une question si simple, mais si importante, et qui a fait réagir nos auditeurs hier, Mathias. Hein, on parlait, est-ce qu'on paye trop d'impôts? Là, ça allait dans tous les sens parce que tu avais des gens qui disaient, moi, j'ai gagné 120 000 par année pendant plusieurs années après avoir étudié énormément, puis j'ai jamais eu de médecin de famille. Je suis sur une liste depuis 10 ans pour en avoir un. Je paye en double au privé, donc oui, je trouve que je paye trop d'impôts pour ce que j'ai comme service. Puis clairement, ben, d'autres ont un petit peu plus de bénéfices au niveau des filets sociaux. Les gars, on paye-tu trop d'impôts au Québec?
Ben, je vais laisser Lambert y aller en premier parce que je sais qu'il a fait une capsule là-dessus que j'ai trouvé très intéressante, puis je pense que ça met bien la table à la discussion.
Bien, au final, pour ceux qui... Merci, Farnell, d'ailleurs, d'avoir écouté ma capsule.
Elle est très bonne, j'encourage tout le monde.
Tu sais, ce débat-là, au final, revient, il n'y a pas de bonne réponse à savoir est-ce qu'on paie trop d'impôts au Québec. La réponse, il y aura autant de réponses qu'il y a de cas types, tu sais, des gens qui ont des hauts salaires versus des mères monoparentales. La réponse va énormément varier. Je pense que quand on a ce débat-là, il faut revenir à l'essentiel, c'est-à-dire au Québec, on a fait le choix depuis les années 60 d'avoir un État qui était plus présent, financé par des impôts plus élevés en échange de services publics plus universels. Et qu'est-ce que ça donne? Bien, ça donne qu'on est un des endroits au monde qui est qui offre la meilleure égalité des chances. Peu importe, il n'y a personne qui a choisi dans quel contexte social on va naître. Et au Québec, que tu nais dans une famille qui en arrache, d'un père absent, versus tu es un entrepreneur à succès qui fait beaucoup d'argent, bien, l'écart entre ces deux personnes-là est beaucoup moins grand qu'ailleurs au monde. Et je sais que ça peut être frustrant par moment pour ceux qui font plus d'argent, particulièrement ceux qui n'ont pas d'enfants. Mais c'est le modèle dans lequel on a décidé de fonctionner. Puis je pense qu'il y a une valeur aussi à avoir un environnement social qui est relativement égalitaire. T'sais, moi, je pense qu'on doit parler, on doit relayer ce message-là puis dire, ben c'est le choix qu'on a décidé de faire. Puis ça fait en sorte que moi, je trouve qu'au Québec, on est tissé serré, on se tient. Puis bref, c'est le
mais
modèle qu'on a
choisi.
Mais ça se
peut-tu que ça soit mal administré aussi?
Il n'y en a pas parfait, mais moi, j'en suis bien fier. Puis je pense que c'est surtout ça l'important dans tout ça.
Bien, je pense que Farnell, tu vas être d'accord aussi avec les filets sociaux et tout.
Oui,
te connais
oui. Ben oui, ça rentre dans mes valeurs, en effet.
Ça se peut-tu qu'on le comprenne aussi? L'auditeur qui nous écrit
oui.
avec son 120 000 puis qui dit « je paye en double », puis comment est-ce qu'on peut gérer mieux les finances de l'État pour que ça ne soit pas des histoires de même puis que je sois bien content de contribuer pour des gens qui ont moins d'argent?
Oui, puis ça, je le sens. Là, je pense que la plupart des Québécois sont prêts à dire, écoute, je serais prêt, moi, j'ai pas de problème à payer.
C'est pas des égoïstes, égocentriques.
C'est ça, exactement. C'est fondamentalement pas qui on est, mais je comprends que quand on voit l'état des services qu'on reçoit en retour, on peut se dire, ben là, minute. Mais il y a une phrase qui me revient toujours en tête, c'est que exigeons mieux au lieu de demander moins. Est-ce qu'on peut parler, par exemple, de la façon que la charge d'impôt est redistribuée parmi les Québécois? Absolument. Je pense que la classe moyenne, présentement, tu peux être au tout début de la classe moyenne puis être à quelques milliers de dollars du seuil de pauvreté. Ça, statistiquement, c'est le cas présentement au Québec. Je pense que c'est peut-être un peu déraisonnable de demander à ces personnes-là de payer un montant d'impôt qui les amène à 1000 ou 2000 dollars du seuil de pauvreté, à une bad luck de ne plus être capable de subvenir à tes besoins. Je pense que ça, c'est absolument légitime comme argument.
Est-ce que c'est aux autres de compenser?
Ben, c'est qu'il va falloir que quelqu'un qu'on pense ailleurs ou qu'on décide de couper dans les services. Peut-être qu'on peut faire un peu des deux, peut-être qu'on peut mieux administrer les choses, mais je ne crois pas que la solution à quand on voit une mauvaise administration de certains programmes, une mauvaise administration de notre argent public, c'est de baisser les bras, dire on n'est rien capable de faire, on ne peut rien faire de bon chez nous, payons moins d'impôts à place, puis démerdons-nous tout seul. T'sais. Puis je trouve ça surtout drôle parce qu'au Québec, on aime tellement regarder les pays scandinaves, puis ça, ce n'est pas juste les mouvements progressistes. Éric Duhem aime vanter le modèle scandinave de santé, par exemple, et je pense qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant à regarder là. Mais les pays scandinaves payent beaucoup plus d'impôts que nous. Et puis, si on veut s'imaginer qu'on peut utiliser les pays scandinaves comme modèle, ben il faut qu'on regarde aussi comment ils se financent et puis il faut qu'on regarde qu'est-ce qu'ils sont prêts à accepter puis comment eux aussi redistribuent
toutes
la charge d'impôt. C'est une question qui est tellement plus large que juste oui ou non trop d'impôts. Il faut regarder ça dans son ensemble, faire preuve d'énormément de nuances.
Mathias, tu...
Oui, ben
parce que Mathias, il étudie en finance, là, fait que non, ces affaires-là viennent chercher.
Je comprends ce que Farnett dit par rapport à l'État québécois, puis... Je pense qu'on est tous fiers du choix qu'on a fait par rapport à avoir ce filet social-là. Mais je pense que la raison aussi pourquoi de plus en plus de personnes embarquent dans le train de dire « on n'est rien capable de faire », c'est que je pense que beaucoup ont l'impression que les gouvernements succèdent, les années succèdent, puis plus que ça avance, bien, plus les services sont de moins bonne qualité également.
Mais il y a beaucoup
également.
De gaspillage d'argent. Ça revient tellement par texto. Lambert, c'est une chose. Là, en politique, on peut quand même déplorer le fait qu'à un moment donné, si on prend toutes les fois où les politiciens ont dit « ouais, ben c'est pas beaucoup sur le budget », puis on les additionne, c'est quand même une bonne enveloppe, là.
Oui, mais c'est une réalité, bien honnêtement, qui s'enchaîne d'un gouvernement à l'autre. Maintenant, moi, je vais revenir à ce que Farnell a dit. On ne peut demander qu'à ces gouvernements-là l'excellence. T'sais. Puis je pense que c'est notre rôle dans ça, il est d'abord là, de demander l'excellence. Mais de demander l'excellence en tout temps, mais d'être conscient aussi, je pense que c'est pas facile de gouverner, puis que gouverner, c'est faire des choix. Parce que là, présentement, on est dans la période des impôts, puis il y a beaucoup de gens qui disent « ça n'a pas de bon sens, je viens d'envoyer mon chèque à mon comptable, ça va me coûter encore, je perds la moitié de mon salaire ou 40 % de mon salaire. » Les gens sont pas contents, mais du moment que le gouvernement entre dans une perspective d'optimisation ou de garder, on va réduire la croissance d'un certain niveau de budget. Je vous ramène à l'exemple des dépenses en éducation que le gouvernement avait voulu faire passer de 7 % de croissance à 5 % de croissance. En gardant en tête là, que 7 % de croissance, c'était exceptionnel si on regarde ça aux années précédentes. Et ils ont voulu faire baisser ça de 2 % et les gens sont sortis dans les brancards. Moi, je pense que l'éducation, ce n'est pas, c'est loin, loin, loin d'être le premier endroit où je regarderais, mais c'est juste pour démontrer que les gens sont rapides pour dire « maudit que ça fait de perdre tel pourcentage de mon salaire ». Mais quand le gouvernement, à un moment donné, dit « ben là, tu sais, on a un pot, on a une tarte limitée, tu sais ». Puis quand on coupe d'un bord, ben faut aller chercher de l'argent, tu sais, faut faire entrer de l'argent. Fait que dans une certaine mesure, c'est d'être conscient aussi quand t'es les gens, de dire, ben c'est sûr que si à chaque fois que le gouvernement essaie d'optimiser puis de mettre fin à des programmes qui peut-être touchent moins de gens ou sont moins bien administrés ou atteignent pas les objectifs désirés, si à chaque fois qu'on fait ça, la part de la population qui est touchée par cette coupure-là sort dans la rue, sac des, tu sais, fout tout en feu, puis...
Il y a une dissonance là-dedans, effectivement, Lambert. Tu te dis, bon, tant que t'es pas touché par ces coupes-là, tu réagis pas, mais une fois que t'es touché, peut-être que là, finalement, ton opinion change. En terminant, Farnell, peut-être le mot de la fin à ce niveau-là, une réponse à Lambert ou une réflexion?
Ben, ma réflexion, je pense qu'on s'aligne un peu là-dessus. Je crois que peut-être qu'une partie de la solution, c'est qu'on devrait demander au gouvernement de garder le focus sur ce que le gouvernement fait bien et ce qu'il est supposé faire. Je pense pas que c'est le rôle du gouvernement de commencer à jouer à l'investisseur de risque avec notre capital. C'est plus le rôle du gouvernement de s'assurer que le terrain est fertile à la croissance économique. Et puis, ben, pour le reste, comme Lambert dit, là, tout le monde est d'accord à ce qu'on coupe tant que c'est pas moi que ça coupe. Et puis, éventuellement, il va falloir qu'on se pose la question, ben, qu'est-ce que moi, je suis prêt à faire? Puis ça, c'est jamais une question confortable politiquement.
Puis si tout le monde se pose la question, c'est comme dans un couple, hein, comment je peux m'améliorer, qu'est-ce que je peux accepter, c'est quoi le bout que je peux faire? Parce souvent, ça va mieux. Les gars, vous êtes un beau couple du vendredi. Au niveau professionnel, c'est bien le fun de vous avoir en onde. Farnell Morissette, qui est juriste, hein, qui parle de droit avec nous le vendredi et qui s'oppose parfois au côté politique et au côté professionnel de Lambert Drainville. Merci les gars d'avoir été là.
Merci à vous. Toujours un plaisir.
On va remettre ça, c'est certain, la semaine prochaine, comme d'habitude. Lambert Drainville, le segment fort apprécié, qui sera aussi disponible sur YouTube dans la section de toutes les capsules de Boulevard 102.1. Mathias, en circulation?
Oui, juste faire un petit tour rapidement, parce que comme à chaque vendredi, c'est un peu plus difficile sur l'heure du midi.
Je vois que sur Laurentienne, c'est décommencé.
Oui,
hein?
Laurentienne en direction sud pour avoir accès à l'autoroute de la capitale. Bien sûr, c'est au rouge, comme presque toute la journée maintenant, on va se dire. Capitale en direction ouest, ça se passe entre Henri Bourassa et Laurentienne. En direction est, c'est présentement à hauteur de Robert Bourassa, surtout que c'est au rouge. On se transporte du côté de la rive sud. Ralentissement sur l'autoroute 20 en direction ouest, c'est surtout entre Avenue Taniata et ça remonte presque jusqu'à Président Kennedy présentement. Pour toute autre info, 418-971-1021 par texto.
On vous accompagne jusqu'à 14h. Vous êtes dans On en jase en absence de Jean-François Fortin qui revient lundi. Je vous accompagne avec Mathias qui est aux commandes de tout cela. Si vous voulez écrire pendant l'émission 418-971-1021, on va laisser une petite pause à Lambert Drainville qui fait encore les 100 pas suite à ces mots-là, puis à Farnell, qui en aurait eu don à ajouter. On va également vous mettre ça sur le site de blvd.fm. Merci d'être là. Au retour, bloc nouvelle, mais on va parler d'économie. Oui, avec bien sûr le budget Gérard qui s'en vient. Il sera déposé le 18 mars. C'est quoi cette annonce-là? C'est quel type de budget? On va-t-il avoir des congés sur cette certaines taxes et ce sera quoi la priorité du budget pour la province? On en jase dans un instant.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase. Les samedis et dimanches matin à Boulevard, on vous joue la musique parfaite pour starter votre journée. Trop élevé? Trop soft? Les matins de fin de semaine à Boulevard 102.1, c'est juste parfait. On passe ça bien mollo, des versions acoustiques et des versions live de vos chansons préférées. Le Rock and Chill avec Audrey Pinchot, tous les samedis et dimanches, 7h.
Boulevard 102.1.
Pour une relâche réussie, offrez-vous une sortie en famille au Rempart de Québec. Du 4 au 8 mars, profitez du forfait 2 adultes, 2 enfants pour seulement 44 $. Une activité qui plaira à toute la famille. Les billets sont disponibles au rempart.ca. Les Remparts, le match parfait pour la relâche.
Cette année, pendant la relâche, prends donc ça cool puis ouvre-toi une petite frette. Chaloux, à la hauteur de ta soif. Chaloux, Beauport, Saint-Émile et Sainte-Cath.
Du 5 au 11 mars, chez Family Prix. Profitez de 25% de rabais sur les soins Zora, Karine Jonka et Vichy, produits sélectionnés. Une belle occasion pour prendre soin de vous tout en faisant des économies avec Family Prix.
Chez Énergir, ça fait 25 ans qu'on s'investit dans l'efficacité énergétique. En incitant nos clients à l'intégrer dans plus de 150 000 projets, on a contribué à économiser plus de 850 millions de mètres cubes de gaz naturel et aidé à éviter près de 1,7 million de tonnes de gaz à effet de serre. Gardez les applaudissements pour plus tard. On a 25 autres années à préparer. Énergir. Pensez l'énergie autrement. Plus d'informations au efficacité.energir.com.
E-Box aime vraiment ça, l'arrivée du printemps. Fait que pour un temps limité, il t'offre le forfait Internet 100 % fibre 1 gigabit par seconde au prix du 500 mégabits par seconde.
Midi 39 dans On en jase à Boulevard 102.1. C'est moins 4 degrés. C'est assez confortable à l'extérieur. Ça peut monter jusqu'à moins 1. Là où je dois vous informer, c'est la pluie verglaçante. Puis, je sais pas dans vos secteurs, mais il y a comme des grosses couches de glace.
Des grosses plaques.
Oui,
là.
Bien épaisses.
Vraiment.
Puis moi, je suis le genre de personne un peu épouvantable qui... J'étais allée chez le dentiste hier, simple histoire. Puis il y en avait une en avant chez mon dentiste. Puis là, je pense tout le temps aux personnes âgées. Puis il n'y avait pas de sel, il n'y avait pas de sable. Fait que j'arrive, puis je dis, ah, oh, juste pour vous informer, il y a une grosse plaque de glace. Je pense que je suis tannante, mais en même temps, je fais ça pour vos grands-parents ou vos parents, OK?
Oui, mais en même temps, je veux dire, c'est normal que tu le fasses. Ça. C'était dans l'entrée pour rentrer chez le dentiste.
Ben... Puis tu sais, tu as tout le temps un Gérard qui va se planter puis qui va vouloir actionner le dentiste puis dire, ou la bâtisse.
Ben,
ou,
de toute façon, s'il se blesse gravement, je
peux comprendre. Toi, c'est ton genre, hein?
Ben non, j'ai
pas des mots dans ma bouche. Essayer de payer tes études avant même d'avoir les factures, c'est de même, hein?
Je vais aller viser des plaques de glace à l'Université Laval, là, pour...
pour te briser une jambe. Non, restez prudents quand même. Mais oui, effectivement, il y a un avertissement de pluie verglaçante pour Québec, les environs. Samedi, dimanche, nuages, pluie ou pluie verglaçante. On est autour de 5 à 6 degrés. Ça reste confortable. L'automne s'en vient. Puis c'est aussi une fin de semaine où on procède au changement de l'heure. Je préfère vous le redire. Quoique ça se peut que vous dormiez et vous ne vous en rendiez pas compte, que ce soit lundi qu'on s'en reparle.
Ça va être le lendemain matin, le matin du dimanche, qu'on va s'en rendre compte alors qu'on va avoir perdu une heure de sommeil.
Ouais, tu sais, la fin de semaine, c'est bien moins pire que la semaine. Mais lundi, tu le sens un
peu.
Oui,
exact.
Puis vivement les téléphones qui s'adaptent tout seuls. Mais quand t'as encore un cadran qui n'est pas de cette technologie-là, le four, le micro-ondes, tu fais le tour de la maison. En tout cas, on vous l'aura dit ici à Boulevard 102. On vous l'aura rappelé. Mathias, en nouvelle?
Oui, je commence par un couple de Lévis qui a été arrêté par les autorités pour négligence criminelle sur leur enfant, en fait, nouveau-né. Cet enfant-là qui a été retrouvé dans un état critique. C'est le 1er janvier 2025 que le SPVL, donc le service de police de la ville de Lévis, a été informé par un citoyen inquiétant de l'état d'un nourrisson présent dans le logement en question. Donc, les policiers, plusieurs mois plus tard, se sont rendus sur les lieux, là, après avoir complété leur enquête et tout, parce que c'est un long processus. Les deux parents qui ont donc été arrêtés, ils devront comparaître le 9 avril prochain sous différents chefs d'accusation. On parle d'omission de fournir les choses nécessaires à l'existence de l'enfant, de négligence criminelle causant des lésions corporelles à l'enfant et d'entrave à des agents de la paix. Les demandeurs d'asile, y compris ceux qui n'ont pas de permis de travail présentement, auront accès aux services de garde à contribution réduite du Québec. C'est un dossier qui dure depuis maintenant 10 mois. Là. 10 mois, ça a été envoyé durant la Cour suprême du Canada qui ont tranché contre le gouvernement du Québec actuel. En gros, c'est que en 2018, le gouvernement avait mis un règlement en place qui retirait l'accès aux demandeurs d'asile ayant un permis de travail ou non aux services de garde à contribution réduite. Par la suite, différentes cours ont invalidé ce règlement-là jusqu'à la Cour suprême, qui non seulement a invalidé ce règlement-là, mais a dit au gouvernement du Québec, les demandeurs d'asile avec un permis de travail auront droit au CPE à prix bas, mais également ceux sans permis de travail. Donc, le règlement, c'est comme devenu un couteau à double tranchant pour le gouvernement du Québec. La décision qui a été rendue justement à ce sujet-là aujourd'hui.
Si vous avez manqué le segment de Lambert Drainville et de Farnell Morissette, ça sera sur YouTube et également sur le site de Boulevard à reprendre. Toujours un bon débat entre quelqu'un ici de la politique et un autre du droit.
Je vous parle rapidement de la guerre en Iran parce qu'on a eu quelques développements aujourd'hui. Tout d'abord, Donald Trump, ce matin, qui a exigé une capitulation complète de l'Iran, puis j'exagère pas des mots là, pour reprendre son truth, parce que c'est comme ça qu'il fait de la politique, Donald Trump. Hein? Il a écrit sur ce réseau social, « Il n'y aura pas d'accord avec l'Iran, seulement une capitulation sans condition. » Il dit par la suite qu'avec de nombreux allié présent au Moyen-Orient, ben on mettra un nouveau gouvernement en place.
On en parle un petit peu plus tard, entre autres avec Éric Ouellet, là, à 12h50 environ, professeur titulaire au département d'études de la défense au Collège des Forces armées canadiennes.
Et je termine avec la dernière nouvelle. On a appris aujourd'hui que le ministre des Finances, Éric Girard, déposera le prochain budget du gouvernement Legault pour l'année 2026-2027, le 18 mars.
18 mars, date à mettre au calendrier, du moins pour nous, commentateurs de l'actualité, mais aussi pour vous. Ah, ça va jouer dans vos poches. On va voir un peu les perspectives dans tout ça. Pour en parler, on va le faire avec quelqu'un qui se connaît vraiment. On s'en va rejoindre l'économiste principal chez Desjardins. Il s'appelle Sonny Scarfoni. Bonjour.
Bonjour, bon après-midi.
Merci de vous joindre à nous à l'émission. On est content d'avoir quelqu'un qui va pouvoir nous vulgariser. Bon, on n'a pas d'informations encore, mais un dépôt de budget, c'est toujours important. Cette fois-ci, c'est le ministre Girard qui va le déposer, donc pour la province. On peut s'attendre à quoi comme annonce de budget?
Ben, je pense que ce matin, le ministre a quand même tempéré les attentes en disant que ça allait pas être trop électoraliste. Bon, il y a tout le contexte aussi avec une nouvelle première ministre qui va rentrer en poste un mois plus tard. Puis bon, il a fait consensus avec eux dans l'élaboration de ce document-là. Nous, côté les attentes, bon, la dernière mise à jour qu'on a eue, c'était au mois de novembre, la dernière mise à jour sur les entrées fiscales au gouvernement, etc., qui, somme toute, montrait que, bon, les entrées d'argent, en soi, surperformaient un petit peu les attentes, et les dépenses, un petit peu également, surpassent un peu les attentes, mais bon, à peu près le 10 milliards de déficit excluant le fonds des générations, en date de novembre, on semblait être en voie de l'atteindre. Je dirais que depuis, cependant, bon, les chiffres de l'économie ont un peu déçu. En tout cas, les chiffres du Québec, là, tels que publiés la semaine passée par l'Institut de la statistique du Québec. Donc, c'est un certain ralentissement ici. Mais bon, nous, ce qu'on attend, c'est de voir c'est quoi les perspectives pour 2026-2027 et au-delà. Et bon, qu'est-ce que ça fait quelques années qu'on attend, c'est des précisions quant à comment est-ce que l'équilibre budgétaire va être rétabli comme il se doit par la loi pour 2029-2030. Il restait quelques milliards à identifier.
Des milliards, donc, c'est beaucoup. Des milliards, on s'entend qu'on parle pas de quelques milliers de dollars. Est-ce que c'est un exercice qui est assez périlleux pour un gouvernement?
Ben, dans l'ordre des choses, bon, on est dans une économie de plusieurs centaines de milliards de dollars, là. Donc, c'est pas nécessairement un chiffre tant impressionnant. Je dirais que c'est un petit peu plus les difficultés d'y arriver. Donc, du côté des revenus, bon, on a une économie au ralenti, en pleine guerre commerciale. Bon, on a la démographie qu'on a parlé beaucoup. Donc, on a un très faible taux de chômage malgré une économie au ralenti. Donc, c'est pas nécessairement juste du côté de la demande que ça se joue, mais de l'offre. Donc, bon, il y a peut-être pas tant de travailleurs que ça de disponible à venir payer des impôts. Donc, c'est le côté des revenus assez limité. Puis, bon, côté des dépenses, on sait l'insatisfaction des Québécois envers plusieurs des services. Puis, bon, les prévisions actuelles, bon, sur 3 ans du ministère des Finances, celles qui sont révélées en novembre, bon, ça comptait sur un contrôle des dépenses quand même important en éducation, en santé. Donc, bon, revenus moins dépenses. Il n'y a pas tant de jeux. Il n'y a pas tant de jeux que ça pour aller chercher un 2,5 milliards de plus. Là. Donc, on joue dans les marges. Je pense que le ministre a quand même été prudent ce matin là, faire transparaître à quoi s'attendre le 8 mars. Mais donc, pas une somme mirobilante, mais juste tant du côté des revenus que des dépenses. Là. Il y a un travail d'équilibriste quand même.
Important à faire. Puis justement, avec ces difficultés financières-là que vous venez de nommer, déficit qui continue de s'agrandir, du côté des contribuables moyens, de ce que je comprends, il ne faut pas nécessairement s'attendre à un congé de taxes, par exemple, du côté de l'essence ou encore de l'argent remis dans les poches directement.
Ben, on verra. On verra. Bon, le fédéral, bon, il a annoncé récemment un crédit additionnel pour l'épicerie. Est-ce qu'il va emboîter le pas? Bon, on est une année électorale, c'est peut-être la bonne chose à faire aussi dans les circonstances avec l'inflation alimentaire. Mais c'est sûr que bon, chaque dollar sortant additionnel pour rencontrer son objectif de 2029-2030, bon, ben faut expliquer de où est-ce que ça va venir. Où est-ce qu'on va réaliser des efficiences dans la livraison de services, les réduire ou aller chercher des revenus additionnels ailleurs.
Monsieur,
Donc, pas de mince tâche, non.
Monsieur Scarfoni, économiste principal chez Desjardins, il y a une question qu'on se posait, Mathias et moi, peut-être en terminant notre entretien, c'est qu'est-ce qui pourrait être fait qui ne serait pas si dommageable pour le portefeuille des Québécois? T'sais, vous travaillez, veux pas, avec la clientèle, vous entendez des gens autour de vous chaque jour parler des difficultés qu'ils rencontrent chaque jour pour boucler les fins de mois, tout ça. Qu'est-ce qui serait un allègement, selon vous, selon votre observation, ou qui ne ferait pas trop mal, en fait, aux gens du Québec dans un budget comme celui du budget Gérard qui sera déposé le 18 mars prochain?
Ouf, ouais, ça c'est la question. Bon, il y a beaucoup d'opinions qui peuvent être émises là-dessus. Je pense, bon, dans une économie avec 4,5 millions de travailleurs, puis...
Je ne voulais pas vous prononcer. C'est-tu parce que vous pourriez vous faire taper sur les doigts? Parce qu'il y a quand même des choses, tu sais, au niveau des taxes, des impôts, ou encore au niveau fiscal qui pourraient être vues.
Le premier palier était diminué un peu. Je pense que pour ces mesures-là, un peu plus... Parce qu'il ne faut pas minimiser non plus le coût total que ça peut représenter encore là sur 9 millions d'habitants. Je crois que ces mesures-là, ça va être débattu en campagne électorale entre les partis, là, parce que bon, ça va être un budget qui a quand même une courte durée de vie et qui va servir là, un peu de voie à suivre là, pour le parti, pour sa plateforme à l'automne. Mais en soi, ouais, ben, je vais pas me commettre aujourd'hui, mais je veux juste mettre de l'avant que c'est pas un travail facile, puis bon, l'éducation, la santé, bon, c'est des postes qui continuent de prendre en importance, donc puis après, bon, mêler ça avec les objectifs d'atteindre un équilibre budgétaire en temps de guerre commerciale.
Ça complexifie encore plus les choses.
En décroissance, ouais. En stagnation, peut-être décroissance, selon les projections de certains démographes. C'est pas facile.
On l'entend dans votre discours comme quoi c'est tout un exercice que Éric Girard, ministre des Finances, a à faire et a à déposer le 18 mars prochain. Merci beaucoup, Sonny Scarfoni, économiste principal chez Desjardins.
Merci, bon week-end.
On sent vraiment à quel point on est dans une période financière économique difficile. Tu sais, il dit, j'ai de la misère à me prononcer parce qu'après, ça me demande de faire un choix puis de mettre en priorité certains éléments, certains enjeux, puis je peux pas faire ça. Tu sais, on l'entendait, là. Mais clairement, c'est criant au niveau des clients qu'il a. Qu'on est dans une passe difficile.
Puis c'est dans ces discours-là, de la part des économistes, parce que peu importe l'économiste, on entend qu'on veut pas trop, ouais, justement, se positionner. Puis c'est à partir de là qu'on voit à quel point le gouvernement actuel va devoir faire des choix, choix importants pour le futur du Québec.
Ils vont être critiqués.
Peu importe le choix. On dit souvent lorsqu'un budget est déposé, mais peu importe les choix que tu vas prendre, personne ne va être content.
Oui, puis surtout avec le fait qu'il y a encore tout ce qui est spectre de la CAQ là, au-dessus quand même de M. Girard, ça n'aidera pas pour la suite des choses.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase.
Nouvelle fort importante depuis lundi, depuis dimanche, depuis en fin de semaine passée, c'est tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Hein? On jasait de ça avant que ça éclate parce qu'on sentait qu'il y avait des tensions qui étaient très difficiles. Mais là, capitulation ou rien, c'est ce qu'a demandé Donald Trump dans sa dernière prise de parole du côté des États-Unis. Il écarte toute négociation avec l'Iran.
Oui, exactement. Puis c'est pas exagéré comme mot, là. C'est mot pour mot ce qui a été dit dans son Truth Social. Il n'y aura pas d'accord avec l'Iran, seulement une capitulation sans condition. On dit par la suite qu'avec plusieurs dirigeants alliés, on va mettre un gouvernement différent en place pour justement faire remonter l'économie de l'Iran.
Mm-hmm. Puis pour parler du conflit, on a notre fier Éric Ouellet. Je dis ça parce que c'est un expert. Hein? Il est professeur titulaire au département d'études de la défense au Collège des forces armées canadiennes et au Collège militaire royal du Canada. Il nous accompagne depuis plusieurs semaines maintenant à On en jase. Bonjour, Monsieur Ouellet.
Bonjour.
On parlait justement de ces mots quand même importants que Donald Trump a choisi de mettre dans son dernier discours, la capitulation ou rien. Du haut de mes petits 30 ans, 31 ans, j'ai pas souvenir que quelqu'un en Occident ait parlé de cette manière-là. Trouvez-vous qu'on est allé trop loin du côté de Donald Trump?
Ben écoutez, M. Trump aime bien les grands discours dramatiques, là, mais je pense que ce qu'il essaie de dire, c'est qu'ils vont pousser jusqu'au bout pour aller à un changement de régime. C'est vraiment leur objectif. C'est aussi l'objectif d'Israël. La question, est-ce qu'ils vont être capables de le faire? Ça, c'est moins clair, mais je pense que c'était des mots différents pour dire la même chose.
Mais est-ce qu'ils vont être capables de le faire? Ça aussi, c'est une question importante, parce que l'Iran ne va pas plier non plus. Pas les dirigeants actuels de ce pays-là, ce pas des doux. C'est une façon dont je veux l'évoquer. C'est des gens qui ont un ego aussi, qui veulent aller au bout des choses et qui, pour eux, sont menés par une idéologie qui ne va pas les faire plier. Est-ce qu'on s'embarque encore plus dans quelque chose qui risque d'être violent et difficile?
Oui, ben en fait, je pense que vous avez parfaitement raison en disant que le régime, les durs de durs, vont certainement tout faire pour rester au pouvoir. Ben, le premier indice va être qui vont choisir comme guide suprême. Ça va vraiment être un bon indice pour savoir si c'est la faction dure ou la faction plus pragmatique qui va prendre le pouvoir. Donc ça, c'est un des éléments. Deuxième élément, c'est que c'est à peu près impossible de faire tomber un régime avec des bombardements aériens. Donc il va falloir qu'il y ait autre chose qui se passe. Et M. Trump a été clair, et je pense que les Américains ne le veulent pas non plus, c'est qu'il y a des soldats américains en nombre important en Iran. Donc, on a ici une situation un peu plus complexe.
Puis avec les derniers développements puis les discours de Trump cette semaine, on peut en déduire que cette guerre-là n'est pas nécessairement sur le point de finir.
Ou on veut continuer, oui.
Ouais.
Tout à fait. Je pense que autant les Américains que les Israéliens vont tout faire pour détruire l'ensemble de l'appareil sécuritaire et militaire des gardiens de la Révolution et toutes les institutions liées au régime, là, les services de renseignement, la police, etc.
Mm-hmm.
Et donc, pour affaiblir le régime, mais je pense que on en avait discuté un petit peu la dernière fois. Je pense que c'est peut-être plus clair maintenant qu'ils cherchent à avoir une révolte populaire en Iran, mais où il y aurait peut-être l'armée iranienne qui viendrait au secours de la population. Et ils combattraient les gardiens de la révolution directement.
Il y a beaucoup de choses dans le conflit qui se sont passées au courant des dernières heures. Je lis beaucoup de nouvelles aussi européennes. Je trouve que ça donne un autre pouls. Quand vous dites, Donald Trump n'a pas tassé de la main, bien au contraire, le fait d'aller envoyer des troupes terrestres dans ce conflit-là. Mark Carney, par alliance, a aussi évoqué qu'il y avait une possibilité, que c'était une hypothèse que l'armée canadienne s'y joigne. Est-ce qu'on sera de manière terrestre aussi impliqué là-dedans? Je sais que c'est dur, on n'a pas de boule de cristal, mais comment voyez les choses, vous, au niveau stratégique pour l'armée canadienne?
Je vois deux options pour les forces armées canadiennes qui ne sont pas mutuellement exclusives. Un, c'est d'aider à rapatrier des ressortissants en dehors du Moyen-Orient et du Liban, si c'est trop difficile pour les compagnies aériennes de le faire. Mais l'autre aspect, c'est de faire un peu comme la France, la Grande-Bretagne ont fait, c'est-à-dire qu'ils vont déployer des avions et des missiles, des systèmes antimissiles pour protéger les pays du coin. Donc ça, c'est possible, mais on n'a pas vraiment de batterie anti-aérienne au Canada. D'une part, d'autre part, nos avions sont très vieillissants. Donc, ça va être une contribution très limitée, ça, s'il y en a une.
OK, vous êtes en train de dire qu'on n'est peut-être pas armé autant qu'on le devrait. Je peux-tu me permettre de vous poser la question?
Oui, non, c'est tout à fait. Le Canada avait des systèmes des batteries antiaériennes qui ont été mis au rancard il y a de nombreuses années. Et on n'a rien acheté pour les remplacer, sauf des systèmes individuels là, pour la groupe brigade en Lettonie. Mais autrement, on n'a rien. Et puis, nos F-18, qu'on essaie désespérément de remplacer par un autre avion, sont aussi vieillissants. Donc, ils seraient quand même utiles, mais vu qu'ils sont vieillissants, on ne peut pas en envoyer beaucoup parce qu'il faut les remplacer rapidement, il faut faire la maintenance, etc. Donc, on ne peut pas avoir une flotte importante d'appareils dans la région.
Ah, c'est super. On sera d'un soutien émotionnel très fort, un peu. Là. C'est ça qu'on lit entre les lignes. On fait des blagues, mais c'est pas drôle du tout. Puis je sais
oui,
que...
oui. Ben, écoutez, certains peuvent appeler ça de la guerre par participation. Là. Ça va être un peu ce même genre.
Mais justement, sur cette voie-là, En Europe, là, la France a décidé d'agir. Donc, on a des porte-avions qui ont été déployés. On a des bases qui ont été prêtées. L'Espagne a refusé le tout à Donald Trump. Ça leur donne un gros bout du bâton au niveau des tarifs, peut-être au niveau économique. Mais bon, la France, est-ce qu'elle peut être perçue comme étant co-belligérante là-dedans? Est-ce qu'on peut la voir comme étant, finalement, sans être une alliance formelle, un pays qui met un pied de trop dans ce conflit-là au Moyen-Orient? Comment on voit ça?
Pour l'instant, la politique française est, je dirais, prudente, c'est-à-dire que c'est vraiment juste défensif. Ils ont déployé des avions aux Émirats arabes unis parce qu'ils ont une base là-bas, mais ils ont bien annoncé que c'était aussi leur devoir de protéger les populations qui vivent aux alentours de la base. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont envoyé des chasseurs pour intercepter les drones, les missiles. Même chose à Chypre, mais là, c'est la solidarité avec l'Union européenne parce que Chypre est membre. Donc, ils ont déployé le porte-avions Charles de Gaulle et je pense une batterie de missiles anti-aériens sur le terrain où elle sera déployée dans les jours qui suivent. Mais c'est, je dirais, c'est pas vraiment une participation active, c'est vraiment défendre les gens qui se font attaquer par l'Iran. Et donc, pour l'instant, c'est une politique assez prudente.
Ce qui est fascinant aussi, c'est de voir l'Ukraine lever la main et dire « Ouh, là, c'est mon moment d'entrer en jeu pour peut-être siéger aux côtés des grandes puissances mondiales. » Et donc, du côté de Volodymyr Zelensky, qui est à la tête du pays, puis vous savez qu'il est en guerre depuis au moins 4 ans maintenant. On vient de fêter le triste anniversaire, en fait, cette invasion russe au sein de son territoire. Il a levé la main pour dire « Nous, on veut venir aider les États-Unis à lutter contre les drones iranien que l'on connaît bien, mais on s'attend à avoir en contrepartie autre chose, donc siéger avec les grandes puissances, avoir un peu plus d'aide du côté de Donald Trump, qui était assez fermé à l'Ukraine dans les dernières années. C'est une haute politique en termes de discussion et en termes... C'est une haute voltige là, dans tout ça aussi, au niveau politique et discussion.
Oui, mais en fait, l'offre de M. Zelensky, le président ukrainien, et une offre sympathique, mais je pense que les Américains ont probablement déjà refusé poliment. Les Américains ont des moyens absolument extraordinaires là, à tous les niveaux, là, la guerre électronique, les avions, les missiles, antimissiles, etc. Donc, un soutien ukrainien serait vraiment plus symbolique. Donc, je vois pas ici un mouvement qui changerait bien les choses ici. Mais c'est une bonne guerre là, de M. Zelensky de faire cette offre de façon très publique.
Assurément opportuniste aussi pour sa condition et celle de ses citoyens. De quelle manière le Canada pourrait réessayer encore une fois de ramener les ressortissants qui sont pris sur les territoires? On voyait dans l'actualité des gens qui disaient leur adieu à leur famille, à leurs amis parce qu'ils se sentaient très persécutés. Puis à l'aube de recevoir une bombe sur la tête, on va avoir un premier vol nolisé par le Canada demain. Est-ce qu'on va être capable de ramener tout le monde au pays?
Je pense que oui. Ça peut prendre un certain temps, mais dans la mesure où le nombre de missiles et de drones iraniens diminue, puis il y a eu une diminution assez importante là, dans les derniers jours, ça va permettre à l'aviation civile de prendre les airs sans moins de danger. Les Émirats arabes unis aussi avaient parlé d'ouvrir un corridor là, qui serait protégé par des chasseurs, en fait, qui permettraient aux avions de décoller. Dans le pire des cas, on peut toujours envoyer des avions militaires pour ramener les gens. Donc, mais je pense que pour l'instant, c'est l'option préférée, c'est de nolliser des vols de compagnies civiles.
Justement, là, on essaye de rapatrier des personnes. C'est samedi, le premier vol. Est-ce que la raison pourquoi ça a pris, entre guillemets, une semaine, là, c'est un peu moins, là, c'est 6 jours, c'est justement qu'on attendait que les corridors soient sécurisés?
Oui, non, tout à fait. Il fallait que les conditions dans l'espace aérien soient plus sécuritaires. Et donc, la diminution des attaques aériennes, iraniennes, est un facteur très, très important, mais aussi des choses très, très terre-à-terre. Il faut négocier, puis il faut faire des contrats. Et donc ça aussi, ça peut prendre un peu de temps. Mais c'était surtout l'amélioration de la sécurité dans l'espace aérien. C'est pas complètement sécuritaire, mais c'est mieux que c'était.
Monsieur Ouellet, vous êtes professeur titulaire au département d'études de la défense au Collège des forces armées canadiennes. La dernière question pour vous aujourd'hui, c'est pourquoi le mot « guerre » est un peu le vol de mort là, de la situation? Pourquoi le mot « guerre » est évité dans le dossier par pas mal tous les politiciens dans le monde?
Ben, du côté de M. Trump, c'est une question d'opinion publique. Là. Il ne veut pas dire que le pays est en guerre, mais plus dans une opération militaire. d'une part. D'autre part, seul le Congrès aux États-Unis a le droit de déclarer la guerre. Donc, ça, il sauterait sa prérogative constitutionnelle. Puis finalement, la dernière raison, c'est que le mot « guerre » a un sens bien précis dans le droit international. Et ça, il veut pas s'empêtrer avec toutes ses obligations. Donc, ils appellent pas ça une guerre, même si, bon, dans les faits réels, c'est une guerre.
Merci beaucoup, Monsieur Ouellet. Éric Ouellet, professeur titulaire, comme je disais, au département d'études de la défense au Collège des forces armées canadiennes et au Collège militaire royal du Canada. On se reparle sous peu.
Merci. À la prochaine.
Bonne fin de journée. C'est tout un dossier. On va suivre ça encore une fois en fin de semaine. Pour vous, on va revenir lundi assurément avec une analyse sur qu'est-ce que nous donnera le week-end en termes d'informations. Mais tout le monde souhaite que ça ait une finalité assez rapide. Tout indique que ce ne sera pas le cas. Vous êtes dans On en jase, on revient dans un instant, puis on va aller jaser avec l'avocat Frédéric Bérard. Vous avez vu dans la nouvelle et vous avez réagi à l'auteur d'un double meurtre qui a été libéré du pénitencier après seulement 15 ans. Et ça, c'est une libération conditionnelle. Est-ce qu'encore on est devant une frasque du système ou encore on est justement dans la réinsertion et on doit continuer en ce sens? Des proches des gens tués, soit son ex et sa fille à l'époque de moins de 15 ans, sont loin d'être en accord avec tout ça. Ils n'ont pas été consultés. Sinon, dans deux dossiers d'intelligence artificielle, les employés du Burger King au Québec seront surveillés par un genre de machine d'intelligence artificielle. Et ceux qui portent des lunettes Meta pour en faire des vidéos évacuées à leur plaisir de la chair, Mathias, se sont fait poigner. Ils se sont fait visionner par un employé. Ça, est-ce que ça fait partie des droits personnels, des droits de la personne?
La question est excellente. Hein?
Mais on va aller poser tout ça à Frédéric Bérard. De l'autre côté de la pause, vous êtes dans On en jase à Boulevard 102.1.
Boulevard 102.1, la radio de l'extrême-centre au Québec.
Vive l'extrême-centre! Yes! Boulevard 102.1, l'extrême-centre, c'est nous autres.
À Boulevard 102.1, avec Jeff Fortin et Pascal CV. Jusqu'à 14h, on en jase.
Ouais, jusqu'à 14h, on est ensemble dans On en jase. Mon nom est Pascal, je suis avec Mathias et on vous accompagne. C'est pas piqué des verres, là, le reste de la programmation pour l'émission. Ah, et en passant, manquez pas la formule semaine de relâche tantôt après 14h. C'est Audrey Pinchot qui fait une excellente job à l'animation du retour. Et bon, notre Mathias national se joindra officiellement à Véronique et Audrey pour le retour. Écoute, Matt, il y a des choses à dire, entre autres à la météo, c'est beau, c'est moins 3, changement d'heure en fin de semaine, mais c'est surtout dans la circulation où il faut mentionner qu'il y a des ralentissements.
Oui, présentement, Henri IV en direction sud, il y a un problème à hauteur de chemin Sainte-Foy. Pour l'instant, j'ai pas plus d'informations sur ce qui se passe dans le secteur, mais c'est au rouge, c'est au ralenti jusqu'à Versant Nord présentement. Si vous avez des informations, 418-971-1021 également sur Capital, c'est à hauteur de Robert-Bourassa en direction est, Laurentienne direction sud pour arriver sur Capital. C'est au ralenti et c'est au rouge sur Capital direction ouest à hauteur de Laurentienne. Je passe côté nouvelles, les demandeurs d'asile, y compris ceux qui n'ont pas de permis de travail, auront accès aux services de garde à contribution réduite du côté de Québec, donc au Québec. C'est la décision que la Cour suprême a rendue aujourd'hui. Ça fait 10 mois là, que la cause est entendue en cause suprême. C'est un règlement, justement, au Québec qui disait que les demandeurs d'asile n'auraient pas droit justement à ces services de garde-là. Pour l'instant, il y avait droit en attendant la décision de la Cour. Bien, finalement, elle a tranché. Les demandeurs d'asile pourront avoir accès à ces services-là. Également, ministre des Finances du gouvernement Legault, Éric Girard, a annoncé aujourd'hui que son budget sera déposé le 18 mars prochain. Je vous amène dans la NHL pour faire un tour des échanges rapides qui ont lieu aujourd'hui.
C'est une grosse journée pour vous, fans de sport. Et on aura Alex Laramé aussi pour en jaser avec toi dans quelques minutes. À 13h30, on va y jaser.
C'est la date limite des transactions du côté de la Ligue nationale de hockey. Pour l'instant, le Canadien qui n'a toujours pas bougé de plus en plus, les espoirs qui bougent commencent à diminuer. Mais par contre, il y a plusieurs transactions majeures, notamment John Carson qui passe des Capitals de Washington vers les Ducks d'Anaheim en retour d'un choix de première ronde et de troisième ronde. Également ce matin, David Jerichek, le jeune défenseur qui passe du Wild du Minnesota aux Flyers de Philadelphie. Le Wild qui reçoit en échange échange le jeune attaquant de 24 ans, Bobby Brink. Également, je vous parle de Corey Perry. Ça, c'est depuis à 12h15 que ça s'est passé, qui est passé des Kings de Los Angeles vers le Lightning de Tampa Bay. En retour, les Kings reçoivent un choix de deuxième ronde.
Jusqu'à 14h.
Coville contribue au succès des Jeux du Canada. Inscription à jeuxducanada2027.ca.
Bienvenue aux petits rigurgis, aux gros vomis, aux rougeurs bizarres, aux têtes qui piquent.
Oh non, pas encore!
Aux fesses qui grattent, au nez qui morve, qui coule, qui bouche. Bienvenue aux joies d'être parent.
Certains qu'on jase, et ce, du lundi au vendredi, dès midi. Habituellement avec Jeff Fortin, mais il est en congé pour, depuis hier. Donc, pour tout le show.
Des vrais congés, là, parce que pour les auditeurs, Jeff, quand il prend des congés, habituellement, c'est tournoi de hockey ou activité bénévole ou autre, mais là, deux vraies journées de congé.
Moi, je dis les pieds sur le pouf, puis en plus, sa blonde est en congé. Fait qu'on y en souhaite des bonnes. Vous êtes avec Pascal, c'est mon prénom. Je ne vais pas parler de moi à la troisième personne, mais quand même, ceux que vous entendez, c'est Mathias Turcotte et Pascal. On est avec vous jusqu'à 14h. Dès lundi, Jeff revient. Sinon, l'équipe du retour sera bien en place. Audrey Pinchot, Véro Bergeron, Mathias se joint à eux un peu plus tard. En ce moment, c'est vraiment beau dehors. C'est moins 3 degrés, du soleil, puis ça va être pas mal scénario ensoleillé pour tout le restant de la journée. Samedi, dimanche, un peu plus nuageux, mais somme toute, c'est chaud. 6, 5 degrés. Donc, 6 pour samedi, 5 degrés pour dimanche. Puis là, je sais, ça grouille à Québec. On a vu des ralentissements. On a des choses à signaler sur nos routes. Mathias va le faire dans 2-3 secondes. Mais je suis en train de me demander que c'est pas anormal. Peut-être en raison de Megadeth ce soir. Faut pas oublier, là, mais Megadeth en spectacle au Centre Vidéotron, ça fait déplacer du monde, même de Montréal. J'en connais une couple qui nous écoute puis qui nous ont écrit qu'au 88-971-1021, ils étaient en route, ils s'en venaient ou encore, ils avaient gagné des billets ici. En passant, ça rapporte gros, là, écoutez, Boulevard 1021. Mais il y a une genre de folie, puis il y en a que c'est pour la première partie qui sont encore plus contents. C'était le cas de certains auditeurs qui nous écoutent par twitch.tv/BLVD/FM, qui dit hey, moi, c'est la première partie. Mais là, je vais essayer de le dire, là, c'est Athrax.
C'est pas évident.
Fait que ça aussi, ça rend les gens bien contents au Centre Vidéotron ce soir.
Athrax, ouais.
Fait que profitez-en, on a un super centre Vidéotron pour accueillir ce genre d'événement-là, puis je sais que vous êtes bien contents. Et en fin de semaine aussi, Colosse qui sera de la partie, qui va vous pousser de la grosse musique. Audrey Pinchot aussi, qui va être avec le Rock and Chill très tôt dans vos oreilles, dès 7h, pour vous bercer avec son café. J'en ai vu un qui hochait la tête, c'est Alex Laramée qui s'en vient dans quelques instants de vous parler de ces échanges-là au niveau du Canadien de Montréal. Est-ce que le Canadien va bouger d'ici 15h? Ça sera quoi le potentiel cible? Est-ce que Patrick Laine va bouger aujourd'hui, etc.? On a plein de questions à aller poser à Alex Laramée, chroniqueur du côté des sports, chose que je ne maîtrise pas. Puis je sais que tu vas avoir une grosse discussion enflammée avec lui. Ça pour dire que quand j'ai dit « ça fait déplacer du monde, Megadeth », il hochait de la tête. Fait que d'après moi, il en connaît une couple aussi qui me s'en met à Québec pour assister au spectacle. Mais d'abord, en circulation, Mathias, on a des choses à signaler. On est en ralentissement depuis au moins 40 minutes. Là.
Oui, justement, Laurentienne en direction sud pour accéder à Capitale, c'est au rouge. Également à Capitale en direction ouest, ça se passe entre Henri Bourassa et Laurentienne présentement. Le ralentissement, on passe de Capitale direction est, c'est entre Robert Bourassa et Boulevard Neuvial actuellement. Si on passe sur la rive sud également, la 20 en direction ouest, quelques problèmes au niveau de Chemin des Îles. Et l'accès au pont Pierre-Laporte présentement, c'est toujours beau en direction sud, mais il y a un léger ralentissement là, qui commence à se créer. Si vous avez quelques informations, 418-971-1021 par texto.
Sinon, ça va vite au niveau de la nouvelle. Puis on apprenait pendant qu'on était en show que pour la violence des groupes armés, il y a 1,5 million de dollars qui va être investi. C'est une nouvelle qui est importante pour la Ville de Québec.
Oui, le ministre de la Sécurité publique, Yann Lafrenière, qui a annoncé ce matin, justement, en compagnie de Bruno Marchand, 1,5 million de dollars. Ce 1,5 million-là permettra notamment à Squat Base Vide de mobiliser 4 à 5 ressources supplémentaires pour accompagner des jeunes et les empêcher de glisser, justement, vers le monde des organisations criminelles distinctes.
Est-ce qu'on dit un peu ça va servir à quoi concrètement? Parce que injecter d'argent, des fois, ça va pas tout régler.
Oui, bien, ce qu'on dit, là, c'est que grâce à ces ressources supplémentaires-là, les jeunes, par exemple, avec des problèmes ou autres, pourront être accompagnés à travers un processus pour justement soit les sortir de situations qui pourraient les amener vers un glissement, okay, ou tout simplement les accompagner pour éviter justement le recrutement d'organisations criminelles davantage de jeunes.
Ce qui était beaucoup mis sur la place publique, c'est qu'il y avait des jeunes qui avaient l'appât du gain en arrière de leur comportement criminel. T'sais, se faire offrir des contrats de violence, soit incendier des établissements ou encore même allant jusqu'à tuer quelqu'un, il y avait des genres d'enveloppes budgétaires par les groupes criminels qui étaient exactement pour faire faire ce genre de job sale-là par des jeunes, question que ça remonte pas à eux, puis qu'on comprenne pas trop pourquoi c'est telle personne qui le fait, t'sais, pour brouiller les pistes un peu. Puis ces jeunes-là, ben ils voient le contenu de la richesse et tout ça sur les réseaux sociaux. Fait qu'il y en a beaucoup qui exprimaient que c'est ça qui les a attirés. C'est-à-dire, hey, moi, je peux me faire 5 000 pour mettre le feu à quelque part, puis d'après moi, je me ferai pas prendre. Ils se lançaient là-dedans, surtout sur les réseaux sociaux, Snapchat, qui était bien populaire.
On le voit sur les réseaux sociaux, puis il y a plusieurs tendances de ça, des influenceurs qui de plus en plus prônent la richesse, prônent d'avoir des belles montres, d'avoir une belle voiture, de bien gagner sa vie, mais pas nécessairement en travaillant, en choisissant les chemins de la facilité. Plusieurs jeunes voient ça sur les réseaux sociaux, ces influenceurs-là qui se multiplient depuis plusieurs années, puis ils se disent, moi aussi, je veux pouvoir vivre une vie de luxe.
Je veux de l'argent. Vie de luxe.
Je veux de l'argent, puis je veux de l'argent facilement. Puis malheureusement, ben, c'est un des moyens que les jeunes trouvent pour avoir d'argent facilement.
C'est sûr qu'il y a plein de côtés à tout ça, mais pour en revenir à la nouvelle, tu sais, on peut pas passer outre le fait qu'on a dû convaincre, hein, les politiciens de nous donner cette enveloppe de 1,5 million de dollars-là pour la criminalité, pour l'exploitation criminelle à Québec. Ça veut dire qu'il y a vraiment une hausse de la violence urbaine. Si on a réussi à les convaincre, c'est en constante évolution partout au Québec, mais ça inclut la région de la Capitale-Nationale. On n'a pas de chiffres précis qui ont été fournis, mais le ministre et le maire y ont convenu ensemble qu'effectivement, hausse d'activité des groupes criminels ici, dans notre ville, puis il faut essayer de travailler plus là-dessus. C'est un peu inquiétant pour les parents, je pense, puis en même temps, ben, c'est un certain filet de sécurité avec cette enveloppe-là. Il faut juste bien l'utiliser. Sinon, au niveau du droit, encore une fois, on parle du cardinal Ouellet depuis peut-être mercredi dans les nouvelles, si je ne me trompe pas. On est encore dans cette saga-là.
Oui, ben c'est son procès présentement pour agression sexuelle. Le cardinal Marc Ouellet qui aurait agressé une agente de pastoral. Puis aujourd'hui, on a eu un témoignage d'une autre femme qui aurait été agressée justement par le cardinal Marc Ouellet. On parle de Marie-Louise Moreau, une octogénaire, qui a vécu une situation d'agression, mais qu'elle n'en avait jamais parlé à personne. On parle d'il y a de cela près de un peu plus de 30 ans, là, l'année de ses 50 ans. On parle d'une femme qui a maintenant 80. La femme se préparait la messe lorsque le cardinal Ouellet se serait placé derrière elle. Et je vais reprendre ses mots. Il a mis ses mains de chaque côté de moi de sorte que je ne pouvais pas m'échapper. Il a frotté son bassin contre mon derrière. C'est des actes qu'aurait porté de ce que dit la femme, le cardinal Ouellet, à son insu. On va suivre cette saga de près-là, mais le procès qui continue.
Puis, tu sais, tout le monde a un peu son opinion, mais l'affaire qui est un peu plate là-dedans, c'est que c'est encore un tribunal public. On n'aura pas le mot de la fin dans tout ça, puis il y en a qui vont avoir intégré le « c'est pas vrai » ou le « c'est vrai ». Puis c'est souvent le cas dans ce genre de dossier-là. Hey, Donald Trump a fait bien réagir, là. Il y a eu point de presse encore une fois. Du côté des États-Unis, on a dit on va aller jusqu'au bout, on va les détruire. Et là, on parlait des ennemis en Iran. On a fait une conversation complète avec notre collaborateur ici à On en jase, qui vient souvent, une fois par semaine, Éric Ouellet. Ça va être disponible sur le site de blvd.fm. Si on a quelque chose à vous conseiller, ça va être ça. Et peut-être, avant d'aller rejoindre Alex Laramé pour tout ce qui concerne le Canadien de Montréal, eh bien, c'est l'ouverture quand même des Jeux paralympiques cet après-midi, 14h. Puis je sais que l'équipe du retour reçoit, entre autres, Doom Gauthier, qui est collaborateur à Radio-Canada, mais c'est un ancien aussi athlète olympique. Ça va être fort intéressant. Ils vont avoir la conversation sur pourquoi ça intéresse moins de monde. Tu sais, souvent, ce qui intéresse le plus les gens aux Olympiques, c'est les histoires. Mais ceux qui en ont des histoires, c'est beaucoup les athlètes paralympiques.
Des belles histoires du monde qui ont fait preuve de persévérance dans des situations excessivement difficiles, des situations que qu'on vivra probablement jamais des bas comme ça. Du moins, je le souhaite à personne de vivre des situations comme ça. Puis que malgré ça, ils s'en sont sortis la tête haute. Puis que maintenant, peuvent compétitionner sur la scène mondiale.
Au sport, Alex Laramé est l'autre côté du Zoom parce qu'il travaille à Montréal. C'est notre collègue au 99.5 qui aime parler sport et qui collabore avec nous. Salut, Alex!
Salut la gang!
C'est sûr qu'on fallait te parler aujourd'hui. Fallait te parler parce que, un, c'est une grosse journée pour les fans du Canadien de Montréal. Mais on dirait qu'on n'apprend pas grand-chose jusqu'à maintenant. Ça n'a pas beaucoup bougé au niveau des échanges. Est-ce que le Canadien va bouger, sinon, d'ici 15 heures, selon toi?
Bien, ce qu'on entend là, à travers les différents informateurs, c'est que le Canadien ne se sent pas obligé de bouger. Puis là, on voit les transactions qui ont été faites. Les prix sont vraiment exorbitants. Là. C'est définitivement un marché de vendeurs cette année. Le Canadien qui souhaiterait acheter, mais pas à n'importe quel prix. Et là, on voit justement, il y a certains gars qui sont plus sur le marché, qui sont partis à des prix vraiment, vraiment très hauts. Donc, selon moi, puis ce qu'on entend, c'est que le Canadien tenterait peut-être de faire un ajout, mais d'ici la date limite, donc très proche de la date limite, puisque les prix, évidemment, vont baisser. Là, c'est un club, un joueur qui veut échanger. Bien, évidemment, plus qu'on se rapproche de la date limite, plus le prix va descendre. Donc, selon moi, si on voit une transaction du Canadien, là, ça va probablement être dans l'heure entre 14 et 15 heures.
C'est un suspense, ça, les gars, là, d'attendre aussi longtemps. Puis ça considère-tu aussi le fait que tout le monde veut savoir ce qui va arriver à Patrick Laine? Ça va-tu bouger aujourd'hui? En as-tu d'autres rumeurs là-dessus?
Ben moi, Patrick Laine, là, depuis le début, je crois pas qu'il va être échangé pour la simple et bonne raison que c'est probablement le joueur le plus lâche que j'ai vu de ma vie avec le Canadien de Montréal. Donc, je vois pas pourquoi un autre club irait le chercher. Oui, il fait des points en avantage numérique, on est tous d'accord là-dessus. Mais après ça, il est complètement inutile, vraiment inutile. Donc, si je suis un club de la Ligue nationale, pourquoi je donnerais des actifs pour aller le chercher? Et si j'étais le Canadien, pourquoi je donnerais des actifs pour m'en départir? Selon moi, c'est un peu une patate chaude. Puis selon moi, le Canadien va être pris avec d'ici la fin de la saison.
Bien, la difficulté présentement pour Montréal, c'est justement, selon moi, personne ne veut de Patrick Laine. Mais si on veut bouger, aller chercher un gros joueur, bien, il faut s'y libérer de la masse. Puis le moyen plus facile de le faire, ce serait d'échanger Patrick Laine. Mais en même temps, personne ne veut. Par contre, présentement, sur le marché des transactions, là, il reste des gros noms qui n'ont pas encore bougé. On peut penser à Trocheck, qui n'a pas encore changé d'adresse, Robert Thomas, qui a des rumeurs comme quoi il pourrait être échangé, Colton Parayko, qui a refusé de lever sa clause pour aller à Buffalo, qui pourrait aussi changer d'adresse. Des joueurs comme ça, est-ce qu'on peut encore penser qu'il y a des chances que ça bouge d'ici 15 heures?
Bien, de ce qu'on entend, là, Robert Thomas, évidemment, c'est un gars qui a encore beaucoup d'années sous contrat. Habituellement, c'est le genre d'échange qui se fait à l'été. Là. C'est très rare qu'on voit ça à date limite. Donc, moi, de ce côté-là, honnêtement, je pense pas qu'il va bouger. Le dossier de Colton Parayko, c'est super intéressant, tu l'as dit. Il a refusé de lever sa clause de non-échange. Le deal était fait là, pour l'amener avec les Sabres de Buffalo. Selon moi, ça démontre à quel point on est désorganisé du côté des Blues. Là. Mais du côté du Canadien, un nom qu'on entend beaucoup, là, c'est Rasmus Ristolainen. C'est un défenseur des Flyers de Philadelphie. C'est un gros défenseur droitier. Mais il semblerait que le prix, là, j'ai regardé sur Twitter, les informateurs parlent d'un choix de première ronde,
ben
un bon prospect et un autre choix.
Attends, choix de première ronde puis un prospect pour Ristolainen.
Puis un autre choix. C'est un défenseur qui gagne 5,1 millions. Là, oui. Donc, il faut être capable de le rentrer sur la masse aussi. Mais probablement que les Flyers pourraient retenir la moitié de son contrat. Mais c'est Marco D'Amico que je l'ai vu tweeter ce matin, un nom quand même assez intéressant de Nick Perbix. C'est un défenseur droitier qui joue avec Nashville, 6 pieds 4, 206 livres. Il est encore sous contrat l'an prochain à 2,75 millions. Ça, selon moi, ça peut être une cible vraiment réaliste pour le Canadien parce que, un, il y a un salaire qu'on est capable d'absorber. Puis deux, c'est exactement le genre de défenseur qu'on a besoin. Un défenseur physique, un droitier, un gros gars. Donc, pour les séries éliminatoires, moi, je pense que c'est définitivement un nom à surveiller d'ici la date limite. Je sais pas ce que t'en penses, Mathias.
Ben, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, moi, la question que je te lance, à quel point c'est une amélioration par rapport à Arberg Zakai ou encore à Jaden Struble? À quel point on va regarder ce défenseur-là sur la patinoire puis on va se dire « Ah ouais, on aime vraiment mieux l'avoir dans l'alignement que, par exemple, un Zakai ou un Struble. »
Ouais, ben je pense qu'il y a un peu deux opinions en ce moment. T'sais, nous, on voit Arber Zakai. Oui, il fait des erreurs défensivement, mais on constate l'apport physique qu'il amène puis la présence qu'il a pour le club. Mais visiblement, Martin Saint-Louis, on n'a pas grand-chose à cirer de ça parce qu'il l'envoie tout le temps dans les estrades. Puis Jaden Struble, c'est des hauts, c'est des bas. C'est un peu comme ça depuis qu'il s'est joint avec le Canadien. Tandis que Nick Perbix, c'est quand même un gars qui est installé dans la Ligue nationale. Il y a des matchs d'expérience aussi en séries éliminatoires avec Tampa Bay notamment. Donc selon moi, on s'entend, là, c'est pas lui qui va changer tout l'alignement du Canadien, mais ce serait un bel ajout pour le Canadien. Puis à 6 pieds 4, je pense que des gros défenseurs, c'est pas ça qu'on a de trop à Montréal. Donc, moi, je pense que c'est une cible intéressante. Sinon, j'en parlais lundi, Simon Benoit à Toronto. C'est sûr que des échanges Canadiens-Toronto, c'est plutôt rare, là, on se fait pas de cadeaux. Mais moi, je trouve que c'est un défenseur super intéressant, un Québécois en plus, encore sous contrat l'an prochain. Donc, ça fit un peu avec ce que le Canadien recherche, là, parce qu'on entend qu'on voudrait pas nécessairement un joueur de location, on voudrait quelqu'un qui peut. Pourrait servir le Canadien pendant encore une année ou même plusieurs années si on le remet sous contrat. Là. Donc, moi, ce serait des cibles que je trouve réalistes là, pour le Canadien parce que les Trocheck de ce monde, tout ça, là, je pense pas que le Canadien est là-dedans.
Alex, tu sais, tu es du côté de Montréal, tu vois un peu comment ça se passe. Tu suis ça depuis tantôt, les échanges dans la Ligue nationale de hockey. Mais jusqu'à maintenant, j'ai l'impression en t'entendant qu'on est plus dans les rumeurs, dans les souhaits, dans ci, dans ça. Est-ce qu'il y a vraiment des équipes qui en sortent gagnantes? Y en a-tu qui en sortent perdantes ou c'est calme plat?
Ben moi, je vois quand même une équipe qui, pas nécessairement simplement les échanges qu'ils ont fait aujourd'hui, mais dans les derniers temps, pour moi, l'équipe qui est gagnante dans le marché des transactions, c'est le Wild du Minnesota. OK, il y a l'échange de Michael McCarron contre un deuxième round, là, pour moi, 54 ans, qui est dans la fleur de l'âge. Là, on vient d'ajouter Nick Foligno contre absolument rien. On a des considérations futures, ce qui veut dire qu'on l'a donné, là, tout simplement. Puis on n'oublie pas qu'ils sont allés chercher aussi Quinn Hughes plus tôt dans cette saison. Donc, selon moi, le Wild, on est vraiment all-in pour aller en série éliminatoire. Fait que pour moi, c'est vraiment une équipe qui s'est améliorée. Oui, on est obligé de donner quand même certains assets, là, mais rien de dramatique. Donc, pour moi, c'est l'équipe qui est la grande gagnante jusqu'ici, là, de la date limite. Mais évidemment, il reste encore de l'action d'ici 15 ans.
Puis présentement, en regardant dans la division du Canadien, là, les Sabres de Buffalo se sont améliorés. Ils ont acquis Luke Shen, Hogan Stanley, Sam Carrick à l'attaque. Ils ont essayé Perico, ils n'ont pas réussi. Le Lightning amène Corey Perry au sein de l'alignement. En tant que fan du Canadien, faut-tu être inquiet de voir toutes les équipes pour l'instant dans notre division s'améliorer, sauf nous?
Ben, je pense que d'une certaine manière, quand même, là, t'sais, évidemment, le Lightning, on le voyait déjà devant le Canadien. Donc, ça, qui s'améliore, je pense que c'est normal. Mais quand même, un fait intéressant, Corey Perry a 40 ans, va avoir 41 ans cette année, a été échangé contre un choix de deuxième ronde. Le gars que les Kings vont repêcher était même pas né quand Corey Perry a commencé dans la Ligue nationale. Fait que ça nous fait réfléchir quand même sur le genre de gars qu'on va chercher du côté de Tampa Bay. Mais moi, les Sabres, je trouve ça très intéressant parce qu'on a mordu la poussière dans le dossier de Parayko, mais on voit qu'on est proactif. On s'est retourné de bord. On est allé chercher Logan Stanley, un gars que j'avais mentionné aussi lundi comme une potentielle cible du Canadien. Mais écoute, oui, il a été mis avec Luke Shen, mais le prix a quand même été payé cher. Là. Isaac Rosen, le gars qu'on est allé chercher, l'équivalent à Montréal, ce serait probablement un Kapanen. En plus, on a donné un choix de deuxième ronde. Fait que moi, je ne blâme pas le Canadien pour avoir fait cet échange-là. Pour moi, c'est trop cher payé, mais je suis d'accord avec toi. Les Sabres, maintenant, je regarde leur alignement. Moi, j'ai toujours été un détracteur des Sabres. Je trouvais que c'était une culture de perdant là-bas et qu'il n'y avait aucune chance qu'ils fassent les séries. Mais là, avec les acquisitions, je pense qu'on peut peut-être les mettre devant le Canadien en ce moment.
Merci beaucoup, Alex Laramée, collègue au 99.5 à Montréal, chroniqueur sportif aussi. On se reparle la semaine prochaine.
Toujours avec plaisir.
Salut. On va surveiller ça, Matt. Ils ont jusqu'à 15 heures pour faire quoi que ce soit qu'ils aimeraient faire ou encore vous faire avoir raison ou démentir ce que vous avez avancé, toi puis Alex.
Ben, l'an passé, Kent Hughes, il n'a pas bougé vraiment à la date limite. Fait qu'on pourrait voir la même chose cette année.
Oui. Puis moi, ça me fait toujours rire le suspense que vous entretenez. Ben, pas vous nécessairement, là, mais ceux qui s'occupent des échanges dans la Ligue nationale. Mais je sais que c'est une journée qui est très intéressante pour vous. Mais en fin de semaine, ce qui est intéressant, c'est que les Canadiens vont terminer leur voyage dans l'Ouest. Et ce soir, c'est face aux Ducks d'Anaheim. Demain, face aux Kings. Vous êtes dans En jase, on revient. Vendredi 6 mars, c'est aussi ce qui sonne la fin de la semaine de relâche. Et sur les réseaux routiers, ça se ressent. Ça se ressent aussi parce que Megadeth est au Centre Vidéotron. Vous êtes plusieurs à nous dire que vous allez au rendez-vous de ce groupe métal-là aussi pour la première partie. Mathias, on termine presque à l'instant l'émission d'On en jase. Je te remercie d'avoir été là, mais j'ai besoin de tes services. Pour vrai, parce que je pense qu'il y a un accident qui s'est produit dans les dernières minutes. Les caméras du MTQ ont été fermées. Habituellement, c'est ça qui se passe.
Ben, on n'a pas plus d'informations pour l'instant, mais ce serait à hauteur de Robert Bourassa sur la capitale en direction est qui aurait quelque chose. Si vous avez des informations, 418-971-1021. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a un ralentissement dans le secteur. Là, ça part de Pierre-Bertrand jusqu'à boulevard Neuvia présentement sur capitale en direction est. Capitale en direction ouest, ça se passe surtout dans le secteur de Laurentienne que c'est au rouge. En parlant de Laurentienne, c'est en direction sud pour prendre Capitale qui a un ralentissement également.
Il est pas pire en plus, hein? Il a commencé il y a une heure. Oh oui, c'est souvent un ralentissement.
Ça s'accumule. Ben, ce ralentissement, il y a un léger ralentissement, j'ai presque le goût de dire, à longueur de semaine maintenant dans ce secteur-là. Mais le vendredi midi, là, c'est pire qu'aux autres moments.
À suivre aujourd'hui, ben, c'est la date limite pour toutes les transactions dans la LNH. On vient d'en parler avec Alex Laramé. Ils ont jusqu'à 15 heures. Sinon, l'ouverture des Jeux paralympiques dans quelques minutes, 4 minutes exactement. Et l'équipe du retour va recevoir Doom Gauthier, comme je vous disais tantôt. C'est un ancien athlète olympique. Puis va aller vous jaser de... Pourquoi est-ce que ça suscite moins d'intérêt, les Jeux paralympiques, quand il y a tellement de belles histoires puis il y a des athlètes exceptionnels au sein de ces troupes-là? Moi, je pense que ça va être une entrevue à ne pas manquer. Puis sinon, nous, on vous redirige vers le blvd.fm pour reprendre Farnell Morissette et Lambert Drinville en plein débat par rapport à Québec qui a perdu sa cause devant la Cour suprême. Également, on a parlé avec Frédéric Bérard, qui est un avocat sur plein d'enjeux technologiques, entre autres les employés qui sont surveillés au Burger King. Éric Ouellet aussi est venu faire son tour pour le conflit au Moyen-Orient et la prise de parole de Donald Trump. Mathias, je te souhaite un excellent week-end, mais on se retrouve, ben, pas nous ensemble, mais toi et l'équipe du retour dans quelques minutes. Tu continues ton chiffre, là.
Yes, dans un instant. Bonne fin de semaine, Pascal.
On se retrouve sur les ondes avec Mathias dans quelques instants. Audrey Pinchot aussi, Véronique Bergeron. Puis passez donc un beau week-end, c'est tout ce que vous méritez.